Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous, je suis Glenn Cellier, journaliste chez Eurosport et bienvenue dans Mercredi Mercato. Pour m'accompagner cette semaine, j'ai la joie, le bonheur de retrouver Julien Pereira qui revient de vacances et qui est tout fringant. Salut Julien.
Salut Glenn, tout fringant mais moins bronzé que toi.
Bah allez, je l'entretiens régulièrement, que ce soit le soir, le week-end, la nuit, le matin. Je fais tout pour être bien en forme. Pour Mercredi Mercato, bien sûr. Alors, bien sûr, on vous rappelle que le podcast est à écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Et si vous voulez justement voir et comparer nos temps, eh ben vous allez sur eurosport.fr. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet, Julien, et on va se pencher sur le sommaire. Déjà, on va parler du PSG qui vient de s'offrir Renato Sanchez selon l'équipe. Et si on va réfléchir un peu, on va se pencher un peu sur le mercato parisien dans sa globalité avec une question. Est-ce le mercato parfait pour le PSG? Le deuxième sujet, Julien, c'est sur Alexis Sanchez.
Je te laisse. Absolument, qui a rompu son contrat avec l'Inter Milan et qui va s'engager avec l'Olympique de Marseille. On va se poser une question très simple. Est-ce qu'à 33 ans, Alexis Sanchez est en bout de course? Est-ce qu'il est fini?
Vague question. Vaste question. Et enfin, on reviendra sur le FC Barcelone et son comportement, j'allais dire, un peu limite pour rester sobre pour le moment avec Frankie de Jong, avec une question. Est-ce que les manœuvres du Barça sur le cas de Jong ne sont pas un peu immorales? Mais avant d'aborder ces trois sujets, il y a trois petites infos. Vous en avez l'habitude maintenant. Il y a trois petites infos qu'on a envie de vous communiquer. Julien, je te laisse la main.
Alors, Charles de Cattelleré, attaquant, talentueux, belge, qui passe de Bruges au Milan pour 36 millions d'euros. Ce sera l'un des joueurs à suivre cette saison. À Chelsea, Slonina, gardien très jeune, 18 ans, qui arrive de MLS, qui est considéré comme l'un des gardiens les plus talentueux de sa génération, qui débarque pour 15 millions d'euros, bonus compris. Et puis toujours à Chelsea, milieu de terrain là aussi très jeune, 18 ans, Chukwu Mweka, qui arrive d'Aston Villa pour 24 millions d'euros. Une somme assez importante pour un joueur de cet âge-là.
Ouais, Chelsea s'active et c'est ce que tu dis, Milan, là, j'ai envie de le petit pépite belge qu'on avait vu avec Bruges, qu'on avait découvert avec Bruges l'année dernière. J'ai envie de voir ce que ça va faire au plus haut niveau, j'allais dire. On l'a déjà vu en Ligue des Champions, mais régulièrement en Serie A, etc. Ce sera l'un des joueurs à suivre en Europe. Alors allons-y tout de suite, Julien, sur le PSG. Le PSG fait-il le mercato parfait? C'est ça la question. Alors on revient un peu, on va remettre un peu dans le contexte. On sait, Paris s'est déjà pas mal activé. La dernière info, c'est l'équipe qui l'annonce ce mercredi, c'est Renato Sanchez, le Lillois, qui serait sur le point de signer avec le PSG pour une somme proche de 15 millions d'euros. Alors Renato Sanchez, tout le monde le connaît, évidemment, c'est un talent qui est là, qui est en Ligue 1 depuis quelques années maintenant avec Lille. On connaît son potentiel, on connaît son impact, on l'a vu avec le LOSC. Mais ça complète surtout un joli mercato, j'allais dire, de la part du PSG. On sait, il y a déjà Vitinha qui est arrivé du FC Porto pour une somme estimée à peu près à 40 millions d'euros. Il y a Hugo Ekitike de Reims, alors avec option d'achat. Il y a Mukiele, on le sait, Paris cherchait une recrue pour doubler le poste de latéral droit qui est arrivé de Leipzig. Et voilà, maintenant, il y a Renato Sanchez. On sait, l'option d'achat aussi a été levée pour Nuno Mendes en début de mercato. C'est un mercato séduisant, non, Julien? Je trouve qu'il y a pas mal de bons points, j'allais dire, à donner pour ce mercato.
Ouais, après, pour juger de la perfection ou non de ce mercato, il faudra aussi évoquer les départs. Je pense qu'on va en parler juste après, Glenn.
Clairement.
Mais effectivement, dans le sens des arrivées, j'aime beaucoup ce qu'a fait le PSG jusqu'à maintenant. Pour deux raisons, parce qu'on a vu déjà Vitinha, ce que Vitinha pouvait apporter dans l'autre jeu parisien. On avait des doutes quand même sur sa capacité à tenir le milieu sur des matchs à haute intensité, notamment avec un milieu à deux avec Verratti. Et là, ce qui est intéressant avec Renato Sanchez, c'est qu'on sait que le Paris Saint-Germain a aussi pris en compte ce fait-là, en se disant, écoutez, si on a un milieu à deux et qu'on a un petit souci, on aura Renato Sanchez qui, lui, est capable d'apporter beaucoup plus d'impact dans l'entrejeu. Donc ça, c'est intéressant. On voit vraiment la patte Campos, capable évidemment d'aller chercher des joueurs talentueux sur le plan individuel, mais qui peuvent aussi être complémentaires sur le plan collectif. Donc ça, pour moi, c'est très intéressant sur le plan des arrivées.
Ouais, je suis totalement d'accord. Et je trouve que ce que j'aime dans ce mercato parisien, et c'est vrai que ce que tu dis, c'est vraiment la patte Campos. C'est-à-dire que ces dernières années, on avait pu reprocher un peu le côté bling-bling de l'équipe parisienne. Là, ce n'est pas le cas. Cette année, on sent que c'est un mercato réfléchi avec des profils qu'on n'attendait pas forcément. Parce que si vous revenez aller 2 mois en arrière, je pense que vous aurez cité ces différents noms. Je ne suis pas sûr que vous auriez parié sur ça. Mais sur le papier, franchement, c'est solide. C'est des jolis paris. Vitinha, il l'a déjà montré. Il apporte quelque chose de nouveau. Il l'a montré notamment pendant la préparation et au Trophée des Champions. Il apporte quelque chose de nouveau dans cet entrejeu parisien, cette capacité notamment à jouer un peu plus en profondeur en amenant le ballon balle au pied. Ce n'est pas quelque chose que l'année dernière, le PSG avait. On connaît le talent de Verratti. On connaît aussi... le potentiel de Paredes, de Gueye, etc. C'est pas quelque chose qui était forcément un point fort l'année dernière du PSG. Même le milieu parisien, moi je trouvais l'année dernière avait montré quelques limites. Je trouve que là, voilà, il est bien remodelé. Renato Sanchez, ah ouais, c'est un super joueur. Alors son petit point faible, petit hic, j'allais dire avec Renato Sanchez, c'est évidemment son physique. Il est régulièrement blessé. Il a du mal à enchaîner plus de 25 matchs en championnat depuis 3 saisons. Mais voilà, c'est un joueur hyper, hyper talentueux, qui a un vrai profil qui peut être un plus dans cet entrejeu parisien. Et en plus, il peut jouer à d'autres... il est polyvalent, on sait. Il peut jouer à pas forcément seulement au cœur du jeu. Il peut jouer aussi sur un côté. Il peut jouer un peu plus haut sur le terrain. Il a la technique pour le faire. Il a le volume de jeu, j'allais dire le physique aussi, pour changer pas mal de choses à côté de Verratti. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment séduisant, plutôt malin, j'allais dire. Pour le moment, je trouve que c'est un mercato intelligent de la part de Campos. Et je revois, ouais, c'est ce que je dis, je remarque vraiment la patte Campos sur ce mercato. Et la petite touche en plus, je trouve ça pas mal d'avoir récupéré Pablo Sarabia. J'attends de voir ce qu'ils vont faire évidemment avec lui sur le long terme, parce que peut-être qu'il y aura des offres, parce que c'est un des joueurs qui a une vraie valeur marchande après son excellente saison au Sporting. Mais justement, il revient, il est en confiance, on le sent, et je trouve qu'avec le départ d'Angel Di Maria, c'est pas mal d'avoir un profil comme ça qui peut jouer à droite, à gauche, on sait qu'il est un joueur de haut niveau, et je pense qu'il peut rendre de très très bons services comme doublure de luxe. Je trouve que Galtier a une belle palette, en tout cas sur le milieu de terrain, en milieu, il a une belle palette à composer là.
Et puis tu parlais du bling bling, il y a quelque chose d'intéressant et d'inhabituel avec le PSG ces dernières saisons, c'est que finalement le PSG a refusé de céder à la hausse des enchères. On a vu que Skriniar, c'était un vrai intérêt au début de saison, ça s'est un petit peu calmé parce que au début de mercato, pardon, ça s'est un petit peu calmé parce que l'Inter était très gourmand, ouais, sur le plan de l'indemnité de transfert. Scamacca aussi, qui lui devait être l'attaquant doublure en attaque, celui qui devait apporter quelque chose de nouveau, un profil différent en attaque. Quand les clubs anglais sont arrivés, Paris n'a pas cédé à la surenchère. Donc je trouve que c'est intéressant et c'est aussi assez nouveau sur ce plan-là maintenant. On le disait au début du sujet, ce qui compte, c'est aussi les ventes. Et sur le plan des ventes, je trouve ça loin d'être parfait, évidemment, mais en tout cas encourageant, parce que Wijnaldum est sur le point, a priori, de filer à la Roma sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et puis surtout, il y a la vente de Gueye en Première Ligue, à Everton. Et ça, c'est intéressant. Alors, le petit bémol, c'est que ce ne sont pas les milieux de terrain que Paris aurait aimé voir partir en premier. On sait qu'il y a des joueurs qui, eux, n'ont plus vraiment de valeur sportive. On parle de Draxler, par exemple. Ouais. Ander Herrera aussi. Voilà, c'est peut-être ces joueurs-là que Paris aurait aimé libérer dans un premier temps, parce que Gueye, Wijnaldum, etc., ils peuvent quand même apporter quelque chose dans la rotation. Mais au moins, Paris vend, et ça aussi, c'était... un vrai problème pour le PSG ces dernières saisons.
Ouais, c'est ce que tu dis. Ce serait d'ailleurs, s'il arrive, il faut attendre de voir, si en effet Wijnaldum part, si Draxler Gueye part, si Thilo Kehrer aussi s'en va, si une porte de sortie est trouvée pour Leandro Paredes, en plus d'Angel Di Maria qui est évidemment parti libre, mais qui du coup s'allège sur le plan salarial, allège un peu la masse salariale du club, ce serait un très bon point à donner évidemment à Campos. On le sait, ces dernières années, Leonardo était aussi un peu critiqué par cette incapacité qu'il avait de réduire le groupe parisien. Voilà, il y a quelques, on le sait, c'est un groupe dense. On sait que Christophe Galtier aimerait bien avoir moins de joueurs à gérer. Ça, c'est toujours un gros problème parce que, évidemment, les Parisiens ont souvent des énormes salaires parce que pour les attirer, il a fallu faire quelques concessions. C'est plus compliqué de les, après de les revendre, évidemment. Et là, pour le moment, c'est en train de. Ils trouvent des solutions. Donc, ça, c'est. Il faut attendre de voir dans les prochaines semaines parce que c'est pareil, c'est ce que tu dis. Alors, moi, Leandro Paredes, je trouve qu'il pourrait rendre encore de bons services au PSG l'année prochaine. Voilà, je suis mitigé sur cette envie du PSG de se séparer de lui. Mais, et en plus, on sait que dans l'ambiance du vestiaire, il est aussi important. Mais voilà, il y a encore quelques semaines, hein, s'ils arrivent à vendre là, début du mois d'août, Vicente Luque, Gueye ou Kerrer, franchement, ce serait plutôt très bien joué de la part du directeur, du nouveau boss, j'allais dire, parisien.
Ouais, pour conclure, je pense qu'on peut dire que c'est un mercato intéressant, intelligent même sur le plan des arrivées et encourageant sur le plan des départs, même si ce n'est pas encore parfait.
Non, il faudra attendre de voir sur le terrain pour voir si Paris passe vraiment un cap. Et évidemment, on le sait, c'est toujours après, en janvier, février, alors là, c'est un peu différent avec la Coupe du Monde, qu'on se fera vraiment un avis sur ce mercato, sur est-ce que Vitinha, est-ce que Renato Sanchez vont faire passer enfin ce cap au PSG en Ligue des Champions.
Je crois qu'on a tout dit. On peut passer à notre deuxième sujet, Alexis Sanchez, qui a rompu son contrat avec l'Inter Milan et qui va s'engager à l'Olympique de Marseille. Et pour évoquer le cas de l'attaquant chilien, on accueille avec grand plaisir notre spécialiste du foot italien, Guillaume Ayar-Pacheni.
Salut Guillaume, ça va ?
Salut Glenn, salut Julien, écoute, tout va bien et vous ?
Très bien, très bien. Évidemment, alors tu viens, évidemment, parce qu'on va parler d'un pays qui t'est cher, l'Italie, et notamment d'un joueur qui nous intéresse plus particulièrement, Alexis Sanchez, qui évidemment jouait à l'Inter Milan et qui est annoncé à Marseille. Voilà, alors on se pose pas mal de questions parce que c'est une recrue phare avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Un joueur qui a cumulé les titres, que ce soit champion du Chili, champion d'Argentine, champion d'Espagne, champion d'Italie. Il a gagné deux fois la Copa América. Il arrive à Marseille, c'est vraiment une figure. Mais on a une petite question, est-ce qu'il n'est pas un peu usé, j'allais dire, ou sur la pente descendante ?
Écoute, figure-toi qu'on me pose beaucoup la question depuis qu'il y a les rumeurs à Marseille. Alors, moi, je vais enlever déjà le premier sujet, c'est il n'est pas cramé. Voilà, pour moi, ce n'est pas un joueur qui est cramé. Il a 33 ans. Voilà, c'est un âge qui est assez avancé, certes. Mais en tout cas, à l'Inter, il avait vraiment ce rôle de joker, très rarement titulaire. Ça, c'est vrai qu'il était très peu titulaire avec Inzaghi. Mais il avait cette capacité à rentrer. Et si tu regardes ses stats, Glenn, il a 9 buts et 5 passes décisives. Donc, ce n'est pas trop mal quand même pour un joker de luxe. Il marque le but en finale de la Supercoupe d'Italie à la dernière seconde contre la Juve. Donc, c'était un but assez important pour l'Inter. C'était le but du titre quand même, de la Supercoupe. Donc, il avait quand même ce rôle de joker de luxe. Il a su le remplir. Moi, des échos que j'ai un peu des supporters de l'Inter et du club, c'est qu'on aura un bon souvenir de lui. On gardera un bon souvenir, pas son salaire, parce qu'il était à 7 millions d'euros. Donc, c'était un peu beaucoup pour le rendement qu'il a eu. Et surtout, voilà, il n'était pas titulaire. Mais disons que il a su marquer des buts importants. Après, on a le sentiment quand même qu'il aurait pu apporter plus. Voilà, c'est plus ça. Il y a quelques regrets quand même depuis son arrivée, quand même, qui avait été en grande trombe. Donc voilà, c'est un sentiment mitigé, mais tout n'a pas été si mauvais pour Sanchez à l'Inter, ça c'est évident.
Guillaume, tu fais bien d'évoquer son salaire parce que c'est une chose importante à Marseille. Il touchait à peu près 7 millions à l'Inter. Il va toucher a priori, selon la Gazzetta, 3 millions à Marseille. 3 millions à Marseille, quand vous touchez cette somme-là, vous n'êtes pas du tout un joueur de rotation ou un joker. Vous êtes un vrai titulaire. Pour donner un ordre de grandeur, 3 millions, c'est à peu près le salaire de Payet. C'est aussi ce que touchait Mandanda jusqu'à ce qu'il parte cette saison. Donc, là, vraiment, il y a quand même un risque qui est pris par Longoria. Après, peut-être que tu peux nous éclairer sur le plan technique, Guillaume, sur le schéma à trois défenseurs et à deux attaquants. Ça, c'est quelque chose qu'il connaît.
Voilà, exactement. Lui, il joue à trois. Il a joué, l'Inter joue à trois maintenant depuis que Conte est arrivé il y a quelques années. Donc, le schéma n'a pas changé avec Inzaghi. Lui, il joue dans les deux pointes de devant. Des fois, il jouait un peu derrière, mais c'était assez rare. Lui, voilà, il avait quand même un rôle très axial. Donc, à voir si l'OM aura cette place-là aussi pour lui. Mais en tout cas, voilà, lui, il jouait vraiment, il ne jouait pas sur les côtés. Et il garde quand même des traces du détonateur qu'il était à l'époque avec l'Udinese. Évidemment, on l'a connu, c'est vraiment là qu'il a explosé. Après, il y a eu le Barça, il y a eu Arsenal et Manchester. Mais ce n'est plus Alexis Sanchez de l'époque. Ça, c'est évident. Il n'a plus le même âge, il n'a plus le même rendement. Mais disons que ça reste un joueur qui, en cours de match, du moins avec l'Inter, de moi ce que j'ai pu voir, qui, en cours de match, avait cette capacité à pouvoir changer les choses, à pouvoir être décisif. Comme je vous l'ai dit, 9 buts, 5 passes D, c'est pas anodin. Mais voilà, est-ce que, et je vous pose la question aussi, messieurs, est-ce que, à votre avis, il pourra quand même tenir parce que je pense que l'OM, il pourrait être titulaire quand même, tu disais, Julien, 3 millions d'euros, c'est quand même important, c'est quand même un salaire de titulaire, je pense, à l'OM. Est-ce que l'OM le prend comme un titulaire ou comme un joker, comme il était à l'Inter jusqu'ici?
Ça me paraît, moi en tout cas, ça me paraît compliqué. C'est ce que disait très bien Julien et d'ailleurs ce que tu disais aussi, Guillaume. Quand on récupère un joueur avec son CV, son statut et qu'on lui donne un tel salaire, c'est quand même compliqué de le considérer juste comme un joker de luxe. Je ne vois pas Marseille faire ça. Enfin, je serais très surpris de le voir régulièrement sur le banc. Du coup, moi, ça m'interroge parce que quand tu as un joueur comme ça, tu veux que ce soit un leader sur le terrain, un leader qui joue aussi beaucoup. Or, la dernière fois qu'il a mis plus de 10 buts en championnat, j'ai regardé, c'est 2016-2017 avec Arsenal. Ça commence à remonter un peu. Moi, j'ai des sérieux doutes sur sa capacité à enchaîner les matchs parce que tu l'as dit, c'est un joueur qui a régulièrement été blessé, qui était dans un rôle de joker. Le problème, c'est que pour moi, à Marseille, ce ne sera pas le cas.
Ouais, ce qu'on ne peut pas reprocher à Longoria, c'est qu'au moins, il remplit les critères qui étaient jugés prioritaires en début du mercato, à savoir qu'il a une vraie expérience européenne et une vraie expérience tout court d'ailleurs des très grands clubs. Donc ça, on ne peut pas lui reprocher. Souvenez-vous, en début de mercato, on avait aussi évoqué la potentielle arrivée de Witzel, alors qui ne joue pas du tout au même poste, mais qui était aussi dans ce profil de joueur-là, qui a une vraie expérience européenne et qui est un titulaire en puissance. Moi, j'ai quand même du mal à voir Sanchez, sur le plan du jeu, être un titulaire comme l'aurait été Witzel, qui finalement a signé Atlético. Donc, moi, c'est ça qui me dérange. Et puis, globalement, si on prend un point de vue plus global, ça va être une nouvelle recrue pour l'Olympique de Marseille. Il y en a déjà eu beaucoup depuis le début de ce mercato. Et en général, quand vous changez 70-75% de l'équipe, comme ça va être le cas pour l'OM cette saison, ça met un petit peu de temps à se mettre en route, au mieux. Au pire, ça ne marche pas du tout. Et le problème, c'est que vu la situation actuelle à l'OM, avec une préparation estivale qui a été un petit peu ratée, Tudor n'aura pas vraiment beaucoup de temps pour faire ses preuves et pour obtenir des résultats. Moi, c'est ça qui m'inquiète.
Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, c'est vrai que ce que j'ai vu de Marseille pour le moment ne me rassure pas. De la situation qui est explosive en ce moment avec Tudor, on sait avec le vestiaire qui avait l'habitude d'être, j'allais dire biberonné, mais plutôt choyé par Sampaoli, parce que même s'il était rude sur le terrain et qu'il pouvait être rude à l'entraînement, on sait qu'il avait un rapport vraiment paternaliste, j'allais dire, avec ses joueurs. Là, pour le moment, c'est complètement l'inverse et du coup ça passe mal. Et c'est vrai que le mercato marseillais m'intrigue parce que c'est pas le niveau que j'attendais forcément. Il y a beaucoup de recrues, c'est ce que tu l'as très bien dit. Je trouve que Marseille change énormément de joueurs dans son effectif, alors que la dernière saison était plutôt encourageante, même plus de très positive, je trouve, et qu'il y avait, des choses sur lesquelles construire. Alors bien sûr, Marseille a aussi été obligé de changer avec Camara qui est parti, Saliba, on le sait, cette situation un peu compliquée avec Arsenal là. Mais ça fait beaucoup de changements. J'ai des gros doutes sur. Il va falloir, c'est ce que tu dis, que Marseille ait vite des résultats, parce que sinon ça peut partir en cacahuète, j'allais dire. Ça peut être un peu compliqué. Et du coup, dans cette situation, d'ailleurs, Guillaume, il y a une question qui me vient là, pour peut-être avant de conclure, sur Alexis Sanchez. Est-ce qu'il peut être un leader de vestiaire aussi, s'il assume. S'il n'a pas forcément les jambes pour jouer, enfin les jambes il les a, mais s'il n'a pas forcément le physique pour enchaîner les matchs et être un leader, le leader qu'on pourrait espérer vu son nom, vu son statut, est-ce que en revanche dans le vestiaire, est-ce que c'est quelque chose qu'il assumait déjà peut-être à l'Inter?
Écoute, au vu de l'état du vestiaire marseillais actuellement, j'ai envie de te dire que non. Mais disons que même à l'Inter, il n'avait pas ce rôle-là parce que tu avais quand même d'autres tauliers avant lui. Ouais. Lui, en plus, à la fin de son histoire avec l'Inter, les derniers mois, il avait été assez piquant sur son rôle. Il en avait un peu marre d'être le super sub, entre guillemets. Il mettait des stories sur Instagram où il piquait un peu même Simone Inzaghi. Donc, tu vois, un leader de vestiaire, normalement, ça ne fait pas ça. Donc, il n'avait pas ce rôle-là. Moi, ce que je peux dire aux supporters de l'OM en général, c'est que lui a vraiment envie de jouer avec des champions. C'est ce qui l'a beaucoup motivé aussi à venir à Marseille. Je ne sais pas s'il n'y avait pas eu des champions, à mon avis. Je ne suis pas certain qu'il aurait accepté l'offre marseillaise. Il a envie de temps de jeu, il a envie de jouer, il en a marre d'être considéré comme un joker. Donc, lui, il vient vraiment dans l'optique de s'imposer à Marseille. Il a une envie aussi de rachat parce que, comme je vous disais, à l'Inter, il a laissé une trace mitigée, pas mauvaise, pas hyper bonne non plus. Donc, lui, il a vraiment ce sentiment un peu de revanche où il dit, bah, moi, je viens à Marseille. Voilà, il le sait, c'est une ville quand même assez chaude. Il y a des supporters qui sont assez chauds. Donc, il va retrouver aussi l'ambiance un peu chilienne, on pourrait dire. Donc, alors, Sampaoli est parti depuis. Mais... Donc, voilà, je pense que lui, il vient vraiment dans l'optique de prouver qu'il est encore le Sanchez de l'époque, même si, évidemment, en 33 ans, il ne peut plus l'être. Mais disons que même ces dernières années, il a toujours été au contact de la Ligue des Champions avec l'Inter. Donc, l'OM s'offre aussi un renfort expérimenté européen qui va pouvoir quand même apporter son expérience peut-être plus sur le terrain, même pour te répondre, que dans le vestiaire. Donc voilà, en tout cas, je comprends pourquoi Longoria a voulu prendre Sanchez. Il y a peut-être une occasion aussi à faire parce que son salaire passe quand même de 7 millions à 3 millions. Alors, il y a beaucoup de problèmes, mais ouais, il divise son salaire quand même en deux. Après, au vu de son âge aussi, c'est peut-être aussi normal, mais lui a vraiment envie de s'imposer. Il vient vraiment dans l'optique de gagner en temps de jeu et retrouver un statut de leader technique sur le terrain. Maintenant, après, on verra si l'OM sera en capacité de lui offrir la saison prochaine.
En tout cas, on a envie de le voir jouer. On a envie de le voir sur le terrain assez vite parce que c'est forcément une figure du football, j'allais dire, international. Donc forcément, c'est toujours agréable d'avoir un joueur de ce calibre-là qui arrive en Ligue 1. Voilà, merci beaucoup Guillaume. Merci de.
Juste avant de conclure, il y a quand même un point qui est important et qui est lié à l'arrivée d'Alexis Sanchez. C'est que ça va pas arranger, si je puis dire, le cas Bamba Dieng, qui fait beaucoup débat à Marseille parce que c'est un joueur qui a un vrai potentiel et qui est très apprécié des supporters, qui est complètement mis de côté par Tudor depuis le début de l'été. Que Longoria chercherait à pousser un petit peu vers l'étranger pour récupérer une indemnité de transfert. Le fait qu'Alexis Sanchez arrive, ça risque de ne pas arranger son cas et ça augmente finalement le risque qu'il y a autour de l'arrivée du Chilien parce que si vous prenez un joueur qui va vous coûter cher, 3 millions d'euros par an, et qu'il n'a pas l'apport espéré et que derrière ça, vous vous séparez ou vous mettez de côté un joueur qui lui a un vrai potentiel, ça risque de ne pas plaire aux supporters. Donc il y a un vrai risque derrière ça.
Ouais.
En tout cas, voilà, on a tout dit. Merci beaucoup, Guillaume.
Merci, Guillaume, de ta présence.
Merci à vous.
De ta science.
De vous retrouver dans Mercredi Mercato. Et dès que vous avez un problème avec l'Italie, vous savez qu'il y a...
On n'a jamais de problème avec l'Italie.
Oui, surtout quand il y a.
Surtout pas en Coupe du Monde.
On a plus un problème avec toi qu'avec l'Italie.
Allez, sur ce, messieurs, merci.
Merci, Guillaume. À la prochaine. Salut. Une question aujourd'hui. Est-ce que les manœuvres, en gros, du Barça avec Frankie de Jong ne sont pas un peu immorales? J'explique. Évidemment, depuis quelques temps, le PM Barça est le grand animateur du Mercato. On le voit partout, ils achètent plein de joueurs. On va aller vite fait faire un petit tour. Robert Lewandowski pour 45 millions, Rafinha pour 58, Jules Koundé pour une cinquantaine de millions, Franck Kessier, Andreas Christiansen. Et en plus, ils veulent encore recruter. On pense notamment à César Azpilicueta, Marcos Alonso et Bernardo Silva. Ça fait beaucoup de monde. Et malgré ça, on se dit qu'ils ont les moyens grâce à quelques leviers. On en reparlera tout à l'heure, financiers qu'ils ont trouvés, qu'ils ont réussi à lever ces dernières semaines. Mais voilà, à côté de ça, ils ont un problème de masse salariale et ils ont envie que notamment Frankie de Jong fasse quelques efforts ou s'en aille du club pour soulager un peu la masse salariale. Et du coup, il y a Juan Laporta qui pousse un peu son néerlandais à partir. Et franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais c'est un peu fatigant, j'allais dire, cette manière de se comporter.
Juste pour remettre un petit peu de contexte, il se trouve que les efforts, Frankie de Jong en a déjà fait. Pourquoi ? Parce que pour intégrer des joueurs à son effectif la saison dernière, le Barça a demandé à plusieurs membres de son équipe d'étaler une partie des salaires. Il se trouve que Frankie de Jong est entré dans ce schéma-là. Et aujourd'hui, le Barça n'a toujours pas réglé le salaire que devait toucher De Jong initialement. Pourquoi ? Parce que même si le Barça a activé des leviers économiques en vendant certains de ses actifs, ce qui lui a permis de récolter plusieurs centaines de millions d'euros et acheter tous les joueurs qu'on a cités en début de sujet, le Barça est toujours soumis à la fameuse limite de masse salariale imposée par la Liga. On se souvient qu'en fin de saison dernière, cette masse salariale, cette limite, était négative à moins 197 millions d'euros. Et le Barça ne sait toujours pas si, grâce à ses actifs vendus, il va pouvoir faire passer cette limite salariale bien au-dessus dans le positif pour pouvoir intégrer tous les joueurs qui ont été achetés durant ce mercato. Il se trouve que les recrues, telles que Lewandowski et Rafinha notamment, ne sont toujours pas enregistrées auprès de la Ligue. Laporta, lors de la présentation de Jules Koundé, C'est donné jusqu'au 13 août pour trouver un accord avec la Liga et surtout pour savoir si la Liga acceptera toutes les formules faites par le Barça pour libérer, en tout cas pour augmenter ses revenus et pour augmenter sa limite de masse salariale. Donc tout ça devrait être fait le 13 août. C'est la limite que s'est donnée Laporta. Et en attendant, Laporta demande à Frenkie de Jong d'accepter de réduire une nouvelle fois son salaire s'il souhaite rester au club. Et s'il ne souhaite pas rester au club, eh ben, il espère que le club acheteur, tel que Manchester United ou Chelsea, qui sont les deux clubs intéressés, prendront en compte, prendront en charge la partie du salaire qui n'a toujours pas été payée à De Jong. Donc là, on est vraiment finalement dans une espèce de menace déguisée. Et on peut reprendre la déclaration qui a été faite par le président du Barça le 29 juillet dernier, qui disait « Ce qui est clair, c'est que nous avons une nouvelle échelle salariale et que tous les joueurs doivent s'y intégrer. On essaye de faire comprendre à ces joueurs la réalité du club. Nous devons tous faire un effort. Nous allons tout faire pour qu'il reste, en parlant de De Jong. Et nous espérons que le joueur fera aussi tout son possible pour rester. » Donc là, on est clairement dans la menace du « Si tu ne réduis pas une nouvelle fois ton salaire, eh ben, la porte de sortie sera par là. »
Ouais, ce qui me pose problème, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, parce que ça fait réagir, on le sait, il y a Gary Neville, évidemment, la légende de Manchester, qui a tweeté, je crois, la semaine passée sur cette situation, et lui, il pousse justement De Jong à aller en justice parce qu'il trouve ça immoral, selon lui, justement, de continuer d'acheter des joueurs comme le fait Barça, tout en ne payant pas ceux qui sont sous contrat. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît assez fou. Il y a aussi le syndicat des joueurs néerlandais qui a tenu à dénoncer cette situation, qui a parlé d'un joueur acculé et chassé. Les mots quand même sont choisis et évidemment sont forts. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre cette situation avec De Jong, de Laporta, parce que je trouve que le Barça... C'est une institution historique du football, et moi c'est un club qui me plaisait et qui me plaît beaucoup pour ses valeurs, les valeurs qu'il incarne, les valeurs qu'il essaye de mettre en place. On se souvient avant le maillot sans sponsor, des choses comme ça, et là je trouve qu'on tombe un peu dans les dérives financières, dans des dérives, des limites qui sont dépassées. Alors bien sûr je comprends évidemment la situation, et c'est vrai que Laporta l'a expliqué, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que le Barça et un club qui générait énormément d'argent. Je vous rappelle, juste avant la crise, c'était quand même le club qui avait généré le record de revenus au monde sur une saison. Et depuis, voilà, c'est un peu plus compliqué parce que Messi est parti, évidemment, et le Barça a besoin d'avoir une équipe compétitive pour reséduire et revendre, récupérer des revenus. Donc là, ils se sont mis en danger en vendant ce que tu as dit tout à l'heure, les leviers qu'ils ont trouvés. Le problème, c'est qu'ils se mettent en danger sur le long terme. Donc, ils ont besoin de trouver comment générer de nouveaux revenus. Ça, OK, c'est très bien. Et pour générer de nouveaux revenus, il faut une équipe compétitive sur le terrain, une équipe qui s'active, qui gagne des titres, qui peut concurrencer le Real Madrid, évidemment, qui peut séduire et du coup qui peut vendre des maillots, notamment. Et évidemment, c'est pour ça qu'ils ont été chercher des têtes d'affiche. C'est pour ça qu'ils font un mercato fort avec Lewandowski, Rafinha, Koundé, etc. qui arrivent. Mais je suis désolé, et à côté de ça, il y a des valeurs à respecter. Et là, se comporter comme ça avec De Jong, lui mettre la pression, ne pas le payer de ce qu'ils doivent alors qu'ils sont en train de dépenser à droite à gauche, je suis un peu d'accord avec Gary Neville. Moi, c'est on dépasse les limites pour moi en ce moment. Laporta dépasse les limites. Je comprends cette envie de tout faire pour essayer de redorer le blason et de redevenir une équipe compétitive. Mais il y a des choses qu'il faut respecter et faire dans l'ordre de l'art, dans l'ordre des choses.
Oui, il y a deux choses. Tu parlais des leviers économiques. On les a évoqués il y a quelques semaines dans cette même émission.
Ouais.
Ça, c'est effectivement un vrai risque sur le long terme. Et sur De Jong, il y a aussi quelque chose qui touche à l'ADN, parce que des joueurs qui finalement sont mis de côté ou mis sous pression pour partir, il y en a toujours eu, oui. Il y en a dans tous les clubs et il y en aura encore. Simplement, si on compare par exemple la situation du PSG et des joueurs qui sont sur le marché, certes, ils ne s'entraînent plus avec le groupe, ils sont mis à l'écart, mais on n'est pas sous la forme de la menace. Là, De Jong, c'est complètement différent. C'est un joueur qui est encore important pour le Barça, qui est titulaire la saison dernière. Et surtout, c'est un joueur qui, quand il est arrivé au Barça, incarnait ce que le Barça devait redevenir, c'est-à-dire retrouver son ADN sur le jeu. Donc, Laporta joue à un jeu dangereux parce qu'il s'attaque quand même à un symbole, même si pour lui, ce n'est peut-être pas un symbole. De Jong, quand il arrive au Barça, c'était un symbole. Et surtout, il risque de créer un précédent, parce que si De Jong, qui semble attaché au club, accepte finalement de baisser son salaire pour rester au Barça, qui nous dit que le Barça ne refera pas ça avec un autre joueur à l'avenir et même un autre club, en prenant cet exemple-là. Donc là, il y a un vrai jeu dangereux Et effectivement, il faudrait que l'affaire soit portée un petit peu plus haut pour éviter que ça n'aille trop loin. Ouais. Avec d'autres joueurs.
Pour moi, il y a des contrats à respecter. À partir du moment où on signe quelque chose, tout simplement, De Jong, quand il est arrivé, c'est pas lui. On lui a pas, il a signé juste le contrat. Il a signé pour un salaire qu'on lui a proposé. Voilà. Si le Barça est dans cette situation-là, il y peut rien. C'est ce que les gestions catastrophiques des dernières années, avec cette folie dépensière, que ce soit pour des salaires, etc., qui ont mis le Barça dans cette situation-là. C'est les anciens présidents, évidemment. C'est les anciens dirigeants qui ont concédé ces efforts, qui ont mis le club dans cette situation-là, c'est pas De Jong. Donc De Jong,
D'autant que De Jong, je ne sais pas si on l'a déjà précisé, mais il touche a priori 6,5 millions par an. Alors oui, c'est un salaire qui est important, mais c'est quand même très loin des salaires que pratiquait le Barça ces dernières saisons. Donc voilà, c'est ce qui pose aussi problème.
Et c'est pas pareil de faire un loft, comme tu l'as très bien dit, au PSG, où on continue de payer les salaires, on leur donne des conditions pour s'entraîner qui sont presque identiques, même s'ils sont évidemment écartés du groupe. Évidemment, quand on a, pour X raisons, au bout d'un certain temps, un joueur ne peut plus rentrer dans les plans de l'entraîneur, ça se comprend, mais il faut respecter, pour moi, les contrats, respecter le deal. Voilà, c'est ce qui me dérange avec ce que fait Laporta en ce moment, cet été, avec Franky De Jong.
Eh bien, merci Glenn, je crois qu'on a fait le tour. C'est donc la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir écoutés. On rappelle que vous pouvez retrouver votre podcast préféré sur toutes les plateformes, que vous retrouvez également les meilleurs moments de cette émission sur eurosport.fr en vidéo. Merci beaucoup, Glenn. Glenn, tu es bientôt en vacances, si je ne dis pas de bêtises.
Mais oui, avec bonheur. Du coup, la semaine prochaine, j'aurai la joie de vous écouter. Je crois, sauf erreur de ma part, que c'est une belle doublette qui reprend la semaine prochaine, mercredi. Tu es avec Cyril Morin, c'est ça?
Je retrouve Cyril Morin.
Ah, ça va être beau.
Non, sans émotion.
J'ai hâte d'écouter ça. Cyril s'est reposé à juste titre ces derniers jours et qui reviendra en forme. On vous dit du coup à la semaine prochaine. Profitez-en bien et bonne écoute. Salut.
Ciao, ciao. Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club, with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.